Un grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. À la Samaritaine venue puiser de l'eau, Jésus dit « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. » Vous rendez-vous compte que si vous adorez ou priez devant une statue ou une image, vous transgressez le second commandement qui dit « Tu ne te feras point d'image taillée, tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point. » Pour adorer en esprit et en vérité, il faut connaître le Dieu que l'on prétend adorer. Or, nombreux sont ceux qui adorent un faux Dieu sans même s'en rendre compte. Connaissez-vous le Dieu véritable ? Connaissez-vous l'identité de l'Éternel de l'Ancien Testament? Beaucoup supposent que l'Éternel est le Père et qu'ils ne sont qu'une seule et même personne. Ceci est loin d'être exact. En effet, l'apôtre Jean écrit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. » Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Nous trouvons ici deux êtres bien distincts. Tous deux forment la famille divine qui est composée de la parole qui est Dieu, qui s'est faite chair pour devenir le Fils, Jésus, le Messie. Afin de pouvoir mourir pour tous les hommes, la parole a complètement abandonné sa divinité, comme le confirme l'apôtre Paul. Ayez entre vous les sentiments qui viennent de Jésus-Christ. Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas estimé qu'il devait chercher à se faire de force l'égal de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait, et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu semblable aux hommes, il a paru dans une situation d'homme. L'apôtre Jean dit qu'au commencement, il y avait Dieu et la parole. Lorsque la parole devint le Fils, Dieu devint le Père. Celui qui allait devenir le Père, la Bible l'appelle le Très-Haut. Si le Fils unique a fait connaître le Père lorsqu'il est venu sur terre, c'est que le Très-Haut n'était pas ou peu connu à l'époque de l'Ancien Testament. Lorsque la Bible déclare que personne n'a jamais vu Dieu, il s'agit de celui qui porte le titre de Père, et c'est ce que l'apôtre Jean confirme dans son évangile, et il le répète en ces termes, « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Personne n'a jamais vu Dieu. Si personne n'a jamais vu Dieu, le Très-Haut, celui qui, il y a environ 2000 ans, est devenu le Père de Jésus-Christ, qui donc était celui qui prit la parole dans le jardin d'Éden, s'adressant à Adam et Ève, et qui a été vu par eux? Qui s'est présenté à Abraham parmi les chênes de Morée? Qui a parlé face à face avec Moïse? Qui a donné les 10 commandements au peuple d'Israël du haut du mont Sinaï? Vous êtes-vous déjà posé ces questions? La réponse se trouve dans la Bible et elle étonnera la plupart d'entre vous. Il y eut une époque au cours de laquelle celui qui devint Jésus n'était pas le Fils de Dieu, tout comme au cours de cette même époque, le Très-Haut ne portait pas encore le nom de Père. Cette époque est donc celle qui précéda la conception du Fils dans le sein de Marie. Sachant que personne n'a jamais vu le Père, l'Éternel de l'Ancien Testament, qui, lui, a été vu par diverses personnes, ne peut pas être le Père. C'est logique. Comparons le récit de l'Ancien Testament avec celui du Nouveau Testament. L'Ancien Testament nous explique ce que fit l'Éternel pour son peuple, tant à l'époque de l'Exode que plus tard. L'Éternel allait au-devant d'eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider, dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Moïse a écrit, « Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu, il est le rocher, et ses œuvres sont parfaites. » À son tour, le roi David déclare, « Je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri. » Rapprochons maintenant ce que nous venons de lire avec ce que l'apôtre Paul révèle au sujet de l'Exode. « Frères, Je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Aucun doute possible, l'Éternel de l'Ancien Testament qui était dans la nuée et qui était leur rocher allait devenir Jésus de Nazareth, le Christ. Cela vous semble peut-être étonnant, mais cela est écrit noir sur blanc dans la parole de Dieu. Le tétragramme YHVH a été traduit par le mot « éternel » par Louis II, le chanoine Crampon le traduit par Yahvé, d'autres par Jéhovah, tandis que la Bible anglaise version King James le traduit par « The Lord », autrement dit « le Seigneur ». Pouvons-nous trouver d'autres preuves de ce que je vous explique? En l'an 31 de notre ère, le jour de la Pentecôte, après que le Saint-Esprit fut descendu sur les 120 personnes assemblées dans la chambre haute, l'apôtre Pierre se présenta avec les 11 devant la foule à l'extérieur et leur déclara « Hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. C'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Cette déclaration de l'apôtre Pierre confirme bien que l'Éternel de l'Ancien Testament est le Seigneur du Nouveau Testament. Voyons maintenant ce que le prophète Joël a écrit à l'époque de l'Ancien Testament. « Après cela, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. » Un autre prophète peut lui aussi apporter une preuve de l'identité de l'Éternel de l'Ancien Testament. Il s'agit du prophète Zacharie qui a écrit « Oracle ou prophétie, parole de l'Éternel sur Israël, ainsi parle l'Éternel. Alors je répandrai, et c'est toujours l'Éternel qui parle, sur la maison de David et sur Jérusalem, un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. » Ce passage se rapporte bien à Jésus-Christ, dont le corps fut percé d'un coup de lance, et ses mains et ses pieds furent percés par des clous. Par conséquent, Zacharie confirme lui aussi que l'Éternel de l'Ancien Testament est bien une seule et même personne avec Christ, le Seigneur du Nouveau Testament, Jésus de Nazareth. Ce même prophète continue en ces termes. « Voici, le jour de l'Éternel arrive. L'Éternel paraîtra, il combattra ses nations. » Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers. Qui donc monta au ciel depuis la montagne des Oliviers et doit y revenir, mais dans toute sa gloire? Lisons le récit de son ascension. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et l'ange qui vint vers eux leur dit, « Ce Jésus qui a été enlevé du ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers. Examinez les Écritures, vérifiez les versets que je viens de citer. Prenez la peine de faire une comparaison entre ce qui est dit du Christ dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Étudiez ces passages de la parole de Dieu et vous comprendrez que l'Éternel de l'Ancien Testament est bien le Seigneur du Nouveau Testament. Il s'agit bien de la même personne. L'apôtre Jude, dans sa courte épître, nous apporte une preuve complémentaire. Il écrit « Je vais vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. » Jude se réfère ici à cette génération qui, par manque de foi en l'Éternel, n'entra pas dans la terre promise et mourut dans le désert. La Bible démontre d'une façon très claire qu'il y a deux personnes dans la famille divine. Il y a le Très-Haut qui devint le Père, et il y a l'Éternel qui devint le Seigneur, le Christ. Certains apôtres et prophètes eurent une vision du trône de Dieu. Dans ces visions, Dieu ne s'est pas montré réellement, mais il permit qu'ils puissent discerner une représentation de ce qui se passait dans les cieux. Lisons la description du trône de Dieu et de sa cour faite par le prophète Daniel. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. Il n'est question que de deux personnages. Lisez donc tout le chapitre. Étienne, avant d'être lapidé, eut lui aussi une vision qui est relatée dans le livre des Actes. Il mentionna cette vision devant le Sanhédrin. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » L'apôtre Paul déclare que Christ est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il y a donc bien deux personnes, deux membres de la famille divine. Dans son épître aux Colossiens, il confirme « Christ est assis à la droite de Dieu ». Au sujet de l'infinie grandeur de la puissance de Dieu, Paul ajoute « Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes ». Dans son épître aux Romains, il écrit « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts » Il s'agit ici de l'Esprit du Père, de la puissance, de la pensée du Très-Haut. Si l'Esprit habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, c'est le Père, rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Il est donc bien question dans tous ces passages de deux personnages et non d'une seule personne qui serait le Père dans la période de l'Ancien Testament, subitement devenu le Fils lors de l'époque du Nouveau Testament. Il n'y a pas non plus trois personnes. Dans sa vision de la Nouvelle Jérusalem, l'apôtre Jean voit lui aussi deux personnes. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. La famille divine est actuellement composée de deux personnes, le Père et le Fils, mais, comme le confirment les Écritures, d'autres enfants s'y ajouteront un jour. Quand l'apôtre Jean décrit le trône de Dieu, il ne parle aucunement de trois personnes d'une trinité. L'apôtre Paul débute ses épîtres et les termine en saluant les membres de l'Église de la part de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Il ne mentionne aucune autre personne. Si vous voulez recevoir notre étude gratuite sur l'identité du Saint-Esprit, il vous suffit de la demander. Alors, comprenez-vous l'objet de votre adoration, de votre culte? Adorez-vous Dieu en esprit et en vérité? En êtes-vous certain? N'oubliez pas que pour adorer en vérité, vous devez connaître Dieu. À vous de répondre.